travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Comme autrefois, la chouette était fixée sur la porte des granges. Tu seras cloué sur la porte du cimetière, oiseau de sang, oiseau noir, corbeau.
C'est elle le corbeau.
C'est faux, c'est une autre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici bien un fléau devant lequel nous sommes résolus à garder tout notre sang-froid. Il paraît que depuis deux étés, les corneilles sont arrivées en nombre dans nos grandes villes et d'abord à Paris, inquiétantes par leur agressivité. On apprenait ainsi, en juin 2014, qu'une femme avait été blessée au front par l'un de ces volatiles dans les jardins de la cité universitaire, à telle enseigne qu'un responsable de ce domaine s'est cru obligé de rassurer les habitants de la capitale en affirmant qu'il n'y avait pas eu de plainte massive concernant des nuisances liées à la corneille noire ou à son cousin le corbeau. Et même si des battues administratives ont été menées au jardin du Luxembourg pour piéger ces oiseaux, toute référence au film fameux de Hitchcock montrant des nuées de volatiles attaquant des passants affolés est apparue comme relevant d'un délire incongru. L'admirable compétence de Michel Pastoureau, mon invité ce matin, était faite pour nous y conduire, car il est un maître de toute connaissance sur les animaux tels que l'homme les a considérés, redoutés, aimés, détestés, mythifiés à travers les âges. Il paraît que l'intelligence du corbeau est d'une stupéfiante intensité, ce qui n'a pas empêché, ce qui a peut-être suscité l'ambivalence de sa réputation. Entre génie et noirceur, noirceur celle des auteurs des lettres anonymes, entre bienveillance et cruauté, entre perversité et naïveté, celle que nous dit La Fontaine. Donc nous allons prendre notre envol, pour une heure, avec le corbeau.
Dans l'immense plaine, les corbeaux croissants, par cent, par centaines, s'en vont croassant. Croas, 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 sans changer de ton. Ils font croas comme bêtes font les moutons. Seul indifférent au cri, un corbeau à cheveux gris ne chante plus désormais. La musique, il la connaît. Dans le ciel barbare, les corbeaux troupeaux suivent la fanfare, suivent le drapeau. Croas, 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 ça coule tout seul. Croas, croas, de la naissance au linceul. Mais le vieux corbeau ridé, dans son coin, suit son idée. Non, vous n'aurez pas ma peau, je suis corbeau, pas robot. Il sort de son aile, la reproduction d'un tableau modèle. Alors l'émotion fait perler de larmes aux yeux du corbeau. Il est sous le charme, mon Dieu, que c'est beau. Sur notre terre sans cœur, on croasse tous en cœur, mais loin des rythmes en vogue, un corbeau aime Van Gogh.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Nous ne dédaignons pas ici le farfelu parfois. Alors voilà une chanson qui me paraît pouvoir être rangée sous cette étiquette, celle de Pierre Louky, c'est un ami de Georges Brassens, qui a été donnée sur France Culture dans Libre Parcours d'Ève Griliquez le 4 novembre 1980. Van Gogh, Michel Pastoureau, c'est le dernier tableau de Van Gogh.
Oui, en tout cas, c'est ce que l'on dit habituellement, ce tableau qui représente un paysage et qui s'intitule « Champ de blé au corbeau », 1890, juillet 1890, à Auvers-sur-Oise.
Il s'est donné la mort juste après l'avoir peint.
Juste après l'avoir peint, ou peut-être même sans l'avoir terminé. On voit des champs de blé jaune doré, magnifiques, un ciel un peu inquiétant d'un bleu foncé, et puis des corbeaux noirs, mais aussi verdâtres, qui en effet sont quelque peu funèbre.
Le vert, le noir, nous voici déjà au cœur de votre réflexion, bien connue de nos auditeurs, sur les couleurs. Mais enfin, aujourd'hui, c'est d'un oiseau que nous parlons. Un oiseau qu'il faut peut-être situer dans la catégorie des corvidés.
Oui, la zoologie moderne fait des corvidés un groupe au sein de la famille beaucoup plus large, des passereaux. Et les corvidés comprennent les corbeaux eux-mêmes, le grand corbeau et le corbeau plus petit qu'on appelle freux, qui se nourrit de fruits, la corneille, ou plutôt les différentes sortes de corneilles, mais aussi les choucas, les pies, les geais, donc une famille assez nombreuse, ça c'est le savoir d'aujourd'hui. Évidemment, les auteurs anciens qui parlent de ces oiseaux ne connaissent pas ces classifications. Certains auteurs, même de l'Antiquité et du Moyen-Âge, font de la corneille la femelle du corbeau, l'idée qu'il y a des corbeaux mâles et des corbeaux femelles, des corneilles mâles et des corneilles femelles, ça ne passe pas très bien. Il faut attendre la zoologie de la Renaissance et surtout du XVIIIe siècle pour que tout cela s'éclaircisse.
Cette affaire de corneille dans les rues de Paris, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Vous me disiez que vous avez eu avec une corneille un commerce spécifique récemment.
Oui, enfin, en tant qu'observateur, c'est tout récent, c'était devant la pyramide du Louvre, un sac d'un fast-food était tombé par terre, avec des restes de frites et de burgers, sans doute.
Fast-food, les corneilles parlent anglais?
Je ne sais pas, en tout cas, elle était très intéressée par le contenu de ce sac, des reliquats d'un repas, elle mangeait paisiblement, il faut bien le dire, et puis un passant s'est approché, et par civisme a ramassé le sac et l'a jeté dans une poubelle. La corneille s'est éloignée et quand le passant a continué son chemin, je l'ai vu qui venait l'attaquer dans le dos et lui piquer l'épaule. Elle se vengeait en quelque sorte.
Ça c'est le côté, c'est la face sombre effectivement de la corneille, du corbeau. Mais ce regard dépréciatif est relativement récent, enfin du point de vue pluriséculaire, parce que dans l'Antiquité, vous nous apprenez, Michel Pastoureau, que le corbeau n'était pas si mal considéré.
Oui, l'histoire culturelle du corbeau, en tout cas en Europe, c'est au fond l'histoire d'une dévalorisation jusqu'à des dates toutes récentes. L'Antiquité, non seulement admirait l'animal, était vénéré et considéré soit comme un attribut des dieux, soit comme un messager des dieux. Il a fallu attendre des dates plus récente, le christianisme notamment, pour que l'animal devienne négatif. Il est très positif dans l'Antiquité, chez les Germains, chez les Scandinaves, chez les Celtes, chez les Slaves, chez les Grecs et chez les Romains même. La mythologie nous donne beaucoup d'exemples de corbeaux valorisés et valorisants.
Il faudra attendre les temps tout à fait contemporains pour que le corbeau retrouve son plein prestige et que on le pose comme l'animal peut-être le plus intelligent, plus encore que les grands singes.
Ce sera sa revanche, oui, toute récente. Les enquêtes d'aujourd'hui montrent que le corbeau, non seulement est le plus intelligent de tous les oiseaux, ça on le savait depuis longtemps, mais probablement de tous les animaux.
Je voulais que d'emblée on sache que cette histoire se termine bien. Alors donnez-nous quelques détails sur la façon dont le corbeau était considéré dans l'Antiquité. On peut vous parler par exemple de l'Arche de Noé.
Oui, alors dans l'Arche de Noé, c'est l'exemple d'un corbeau plutôt négatif. La Bible, contrairement aux mythologies celtes ou germaniques, n'aime pas trop le corbeau. Et c'est elle qui va ouvrir la porte au christianisme ennemi du corbeau.
J'ai tort de choisir cet exemple, en somme.
On pourrait partir de la mythologie nordique, où le corbeau est peut-être l'animal le plus admiré. C'est l'attribut du dieu Odin, le chef du panthéon germano-scandinave, qui a pour attribut, entre autres, deux corbeaux, Huginn et Muninn, la pensée et la mémoire, qui sont perchés sur ses épaules, et qui, chaque jour, survolent le monde, observent, écoutent et rapportent aux dieux ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont aperçu. Ce sont ses messagers, ce sont ses conseillers. Par là même, le corbeau est au fond l'animal presque totem des sociétés païennes du monde nordique le plus ancien, peut-être même plus que l'ours encore. On a un peu la même chose chez les Celtes, où le corbeau est l'attribut du dieu Loug. Là encore, c'est le principal ou le chef du panthéon celtique. C'est un oiseau qui a à voir avec la sagesse, la magie, l'intelligence. Il conseille les dieux, il est messager des dieux. Il a laissé pas mal de traces dans les toponymes.
On peut d'ailleurs rappeler à la capitale des Gaules et à ses habitants que Luc Dunhomme vient de cette racine-là. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. C'est Luc Dunhomme, c'est la colline au corbeau ou la colline du dieu Lug, hein, Lugos en gaulois ancien, c'est à la fois le dieu Lug et c'est le nom du corbeau que l'on peut rattacher d'ailleurs au l'adjectif Lukos en grec qui veut dire noir, noir brillant. Il y a à la fois l'idée de noirceur et de lumière chez le corbeau.
C'est un animal qui est pragmatique et qui est en même temps distancié puisque c'est l'oiseau du destin.
C'est l'oiseau du destin et dans un grand nombre de mythologies, de contes et de légendes, on sent qu'il joue un rôle d'intermédiaire entre la vie et la mort, entre les dieux et les hommes, entre les dieux entre eux, si je puis dire. Il est messager, il est intermédiaire, il est observateur. Chez certains peuples d'Amérique du Nord, indiens, inuits ou de Sibérie, il passe pour le créateur du monde, l'organisateur du monde. Il est vénéré comme tel. Et puis dans d'autres mythologies, contes et légendes, on le retrouve chaque fois qu'on parle de la fin du monde. Il est aux deux extrémités, en quelque sorte. Un très beau livre d'Italo Calvino, paru il y a une trentaine d'années, c'est un recueil de nouvelles qui a pour titre « Le corbeau vient le dernier », c'est-à-dire quand tout est fini, que la mort est là, que le monde est à son crépuscule, il ne reste plus que le corbeau qui était là au début pour beaucoup de sociétés. Donc il est aux deux extrémités.
Et quand il est à la première extrémité, qu'il protège les humains de la mort, il est vraiment bienfaisant. Il y a ce conte islandais où on voit le corbeau aller chercher la chaussure d'une petite fille pour entraîner la petite fille loin de l'endroit où il va y avoir une avalanche épouvantable.
Oui, il est bienveillant envers l'espèce humaine, il la protège, il la surveille. À toute époque, on a souligné combien le corbeau était un observateur de la vie des humains, et certains auteurs soulignent, Pline par exemple, que c'est probablement l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Il est toujours là à regarder, à observer. Et donc il prend parfois des décisions ou des comportements qui sont bienfaisants, vont sauver, comme cette petite fille, tel ou tel personnage. On a dans la légende de Saint-Benoît au Moyen-Âge une histoire où les moines agacé par la rigueur des règles imposées par Saint-Benoît.
Benoît de Nursy,
ont voulu l'empoisonner pour s'en débarrasser et lui ont, selon les versions, offert soit un fromage, soit un gâteau. Et un corbeau, au moment où le saint allait manger le fromage ou le gâteau, un corbeau s'en est emparé et l'a emporté au loin, ce qui a permis au saint de survivre, de ne pas mourir empoisonné.
Et de rédiger la règle de Saint-Benoît, qui est encore le texte qui gouverne la vie des bénédictins.
Oui, et d'autres ordres monastiques liés ou extraits de l'ordre bénédictin.
Loin de cette Europe continentale, le corbeau est aussi bénéfique, par exemple dans le désert. Je vais vous faire entendre un entretien avec un poète touareg, Awad, à propos des caravanes dans le Sahara et du rapport d'amitié qui se crée avec les corbeaux. C'est un extrait des Nuits magnétiques de Jean-Pierre Milovanov sur France Culture, le 25 décembre 1985, c'était pour Noël.
Il faut parler aussi des corbeaux qui sont les caravans, qui sont extraordinaires, qui peuvent tromper les caravans, mais en même temps aussi qui peuvent l'aider. Ça dépend de leur couleur aussi. Quand ils sont nerveux, ils peuvent perdre un caravan, mais en même temps aussi peuvent l'aider à trouver un point d'eau, un puits, comme par exemple Giscan est auprès des puits, et les corbeaux, ils viennent, ils frôlent la caravane, et il la tourne 3 ou 4 tours. Après, il pique directement vers la direction d'eau. Il le montre. Et ces corbeaux, ils suivent pendant des kilomètres et des kilomètres, à suivre toute une caravane pour manger ce qui reste. Et les caravaniers, ils ont instauré des rapports d'amitié avec eux, avec ces corbeaux, parce qu'il ne faut pas les énerver aussi. Il faut les donner chaque jour en leur laissant manger. pour qu'il ne faut pas qu'ils s'énervent, parce que si ils ont faim, il peut arriver aussi, par exemple, quand tous les hommes ils sont occupés par des travaux, ils laissent les outres et crèvent les outres d'eau. Où ils crèvent des sacs, des céréales pour les manger. Donc, il faut les nourrir. En plus, quand on les nourrit, ils aident la caravane. Ils peuvent montrer où il y a un gibier. Souvent, quand on arrive dans une espèce de petits îlots dans le désert, quand il y a un antilope dans le désert, là, ils montrent, ils tournent la caravane, ils crient, ils dénoncent. Ils mettent la caravane dans une sorte de désordre. Après, ils piquent vers leur direction. Tout de suite, les caravanes, ils comprennent. Il y a quelque chose. Il y a un individu qui est là-bas, soit une caravane, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vivant, ou quelque chose qui peut servir la vie qui est de ce côté.
Alors Michel Pastoureau, cette idée de rapport d'amitié entre l'homme, le caravanier en l'occurrence, et le corbeau, on le retrouve ailleurs ?
Oui, c'est quelque chose qui revient à différentes époques, chez différents auteurs. Pline nous raconte, par exemple, dans son Histoire naturelle, que...
Pline l'Ancien.
Pline l'Ancien, oui, qui est, dont le texte, l'Histoire naturelle, est un texte fondateur de la culture occidentale. Il nous raconte comment à Rome, un corbeau était devenu célèbre, il avait été apprivoisé par un cordonnier, il avait appris à parler, il saluait chaque matin au forum l'empereur et les grands dignitaires de l'Empire. Ça a rendu jaloux d'autres cordonniers parce que celui-ci avait une clientèle de plus en plus abondante à cause de son corbeau merveilleux. Un rival jaloux a fini par tuer le corbeau. Malheureusement, la foule s'en est pris à ce rival qui a été mis à mort et le corbeau a eu des funérailles quasi impériales, au dire de Pline, qui souligne déjà l'intelligence du corbeau. Il en fait le plus intelligent de tous les oiseaux. Et puis, il rappelle un certain nombre de légendes issues de la mythologie grecque passées dans la mythologie romaine.
Et c'est ainsi que nous allons voir ce volatile glisser doucement de la situation d'oiseau admiré, oiseau de bon augure, à la situation d'oiseau inquiétant. Et on va passer de l'admiration, de l'amitié à la haine. De ce point de vue-là, la Bible est un moment important, en particulier l'Arche de Noé, parce que le corbeau est décevant pour Noé.
Dans la Bible, il devient un animal ambigu. Dans certains passages, il est encore bienveillant, nourricier dans l'histoire du prophète Élie, mais il est souvent mis du côté négatif, pris en mauvaise part, il est charognard, il est funèbre, il est inquiétant. Et alors, dans la Genèse, il a un rôle très négatif, et c'est ce que va retenir le christianisme médiéval. Au moment du déluge, Noé lâche... un corbeau pour qu'il aille voir si les eaux du déluge se sont calmées et retirées, et lui demande de rapporter la nouvelle. Le corbeau s'envole et il ne revient pas parce qu'il s'est attardé à manger des cadavres qui flottaient à la surface des eaux. Et donc Noé doit lâcher la colombe et c'est elle qui va revenir avec un rameau d'olivier, faisant comprendre à Noé que les eaux du déluge se sont calmées et que la fin de l'épreuve approche.
C'est déjà le charognard en face de la blanche colombe.
Voilà, c'est l'oiseau noir contre l'oiseau blanc. Ils font déjà couple dans cette histoire. Et le corbeau est du mauvais côté. Il est pris en mauvaise part. Et ça va aller en s'accentuant au fil des siècles. Les pères de l'Église qui commencent ce passage.
Saint Augustin, par exemple.
Voilà, Saint Augustin et quelques autres. Saint Augustin, qui est au fond le père de la symbolique médiévale, n'aime pas beaucoup les animaux, mais alors contre le corbeau, il écrit des pages terribles. L'oiseau noir, l'oiseau mortifère, l'oiseau charognard, et il le compare à différents personnages épouvantables, et notamment à l'homme pécheur qui remet toujours au lendemain la confession de ses péchés, parce que Saint Augustin...
Là, c'est intéressant parce qu'il y a un jeu de mots.
L'adverbe « demain » en latin se dit « crasse », et dans le croassement du corbeau, Augustin entend deux fois « crasse, crasse », c'est-à-dire l'homme pêcheur qui dit « demain, demain », sous-entendu « je me confesserai demain, j'ai le temps ».
Plus tard, plus tard, toujours plus tard.
D'où notre terme moderne et savant, « procrastination », construit sur le latin « crasse »,« demain », qui est un terme ordinaire en latin classique. Donc le corbeau est l'image de l'homme pêcheur qui remet à demain une vie meilleure.
Le corbeau se trouve aussi lié à la mythologie entourant le fameux Frédéric Barberousse, qui est supposé n'être pas mort, mais en fait entouré de corbeaux.
Frédéric Barberousse est un empereur quasi mythologique pour les légendes allemandes et la culture germanique en général.
Il a vécu au
au XIIe siècle. Je crois qu'il devient empereur en 1155 et il meurt en 1180, alors qu'il partait en Terre Sainte lors de la Troisième Croisade. Et pour l'Allemagne, c'est une perte considérable. Alors la légende veut qu'il ne soit pas mort, mais endormi sous une montagne en Thuringe, et qu'il reviendra un jour rendre à l'Allemagne sa grandeur perdue. Et l'empereur, endormi, de temps en temps se réveille et demande à un serviteur d'aller voir si les corbeaux volent encore autour de la montagne.
Victor Hugo l'a raconté, presque aussi bien que vous.
Bien mieux que moi.
Il dormait d'un sommeil farouche et surprenant. Sa barbe d'or, jadis, de neige maintenant, se répandait à flots sur la table de pierre. Ses longs cils blancs fermait sa pesante paupière. Par moments, inquiet à travers son sommeil, il portait vaguement la main à son épée.
Et alors la légende explique que tant que les corbeaux volent, Barberousse va continuer son sommeil, mais le jour où ils cesseront de voler autour de cette montagne, il se réveillera définitivement, reviendra prendre la tête du Saint-Empire romain germanique devenu l'Allemagne moderne et lui rendra donc son ancienne grandeur.
Il y a aussi les corbeaux qui passent dans le poème tellement fameux de Villon.
Les corbeaux qui viennent dévorer les cadavres des hommes qui ont été condamnés à être pendus et qui viennent s'attaquer prioritairement aux yeux, c'est un topos qui vient de loin, ce goût supposé qu'ont les corbeaux s'attaquant aux cadavres pour les yeux. Alors certains auteurs au Moyen-Âge affirment que ce sont les yeux eux-mêmes dont ils se régalent. D'autres soulignent que ce ne sont pas les yeux, mais ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la cervelle qui est le mets de choix pour un corbeau ordinaire.
La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci. Pis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Les yeux cavés, c'est Villon. Donc en somme, au Moyen-Âge, le corbeau est tombé dans le bestiaire du diable.
Voilà, il est devenu totalement négatif et il est même une des vedettes du bestiaire du diable avec l'ours, avec le loup, avec tous les animaux qui, comme lui, ont un pelage ou un plumage sombre. Et lui, c'est l'être vivant le plus noir qui existe. Et ça fait beaucoup pour sa mauvaise réputation.
Le parallèle avec l'ours est intéressant. C'est un autre de vos sujets favoris, Michel Pastoureau. Et l'ours a aussi connu cette sorte de dégradation de son image jusqu'à une vindicte générale de l'homme. Et puis ce renouveau dans les derniers temps.
C'est cela. Leur histoire culturelle est comparable dans les sociétés européennes. Deux animaux admirés, vénérés, divinisés parfois par les peuples antiques. Le christianisme qui part en guerre contre les cultes païens voués à ces deux animaux qui survivent parfois en terre chrétienne, notamment dans le monde germanique. Et une guerre qui ne cesse pas à l'époque moderne et qui contribue à dévaloriser ces deux êtres. Et puis une revanche à l'époque la plus contemporaine. Pour l'ours, c'est sous la forme de l'ours en pluche qui partage le lit du jeune enfant. Et pour le corbeau, sa revanche, c'est toutes ces enquêtes récentes sur l'intelligence animal qui fait de lui le premier de la classe.
Enfin, revenons, Michel Pastoureau, à ce corbeau auquel nous consacrons notre émission ce matin et à une réflexion sur cette haine qui désormais qui l'entoure, cette sorte de détestation universelle. Je vais vous faire entendre une chanson ultérieure qui, vous allez voir, garde quelque ambivalence. C'est une chanson de Jules Jouy, un poète chansonnier anarchiste, à la fois antisémite et anti-boulangiste de la fin du 19e siècle. Il était anti-boulangiste, c'est lui qui avait, pour condamner le général à la barbe blonde, l'expression « l'infâme à barbe ». Eh bien, Jules Jouy a rédigé la Carmagnole des corbeaux, qui est ici interprétée par Simone Bartel. Et vous allez voir que le propos n'est pas tout à fait clair.
Noirs dans la neige, les corbeaux, noirs dans la neige, les corbeaux. Attendent les morts sans tombeau, attendent les morts sans tombeau. En cercle se pressant, ils tournent croissant. De partout à la ronde, vive le son, la guerre approche et gronde, vive le son du canon. Les coteaux auront au beau temps, les coteaux auront au beau temps. Moins de fleurs que de combattants, moins de fleurs que de combattants. d'un sang jeune empourpré, pour herbe les grands prés. Au rond des baïonnettes, vive le son, vive le son. Adieu les alouettes, vive le son du canon. Les bois par les obus brisés, les bois par les obus brisés, seront sans oiseaux sans baiser, seront sans oiseaux sans baiser. Où l'amour coulait, passera le boulet. Sous les feuilles nouvelles, vive le son, vive le son. Jailliront les cervelles, vive le son du canon. Dès l'aube à l'abri des combats, dès l'aube à l'abri des combats. Dans l'azur loin des cris d'en bas, dans l'azur loin des cris d'en bas. Au ciel formant des ronds, corbeaux planeront. Sans craindre la mitraille, vive le son, vive le son. Nous verrons la bataille, vive le son du canon. Puis le soir lorsque les prés verts, puis le soir lorsque les prés verts, de cadavres seront couverts, de cadavres seront couverts. Grave, nous attendrons l'ombre et nous descendrons sur le champ solitaire, vive le son, vive le son. Manger les morts par terre, vive le son du canon. Nous leur mangerons tout joyeux, nous leur mangerons tout joyeux. Le ventre, la tête et les yeux, le ventre, la tête et les yeux. Corbeaux, tenons-nous prêts pour le temps des cyprès. Au loin l'horizon bouge, vive le son, vive le son. Voici le printemps rouge, vive le son du canon.
Alors Michel Pastoureau, quelle est votre interprétation enfin de cette chanson un peu mystérieuse? Les corbeaux représentent qui?
Oui, on peut se le demander. Ils représentent sans doute les anarchistes ou une extrême gauche qui va dévorer les possédants, ou bien au contraire, ils représentent les possédants qui s'attaquent aux pauvres gens, ou bien le texte part en guerre contre la guerre elle-même et tous ses malheurs, et ironiquement se place du côté des corbeaux qui attendent que, au fond, tout le monde soit mort pour intervenir et dévorer les cadavres. Je ne sais pas quelle est la bonne version qu'il faut choisir de cette interprétation.
Nous laisserons nos auditeurs devant cette incertitude. Mais revenons un peu au bestiaire du Moyen-Âge. Si vous voulez bien, Michel Pastoureau, parce que il y a là une force et en même temps une ambivalence qui frappe celui qui s'en préoccupe.
Les bestiaires du Moyen-Âge sont bavards sur le corbeau. C'est toujours un chapitre très long. On parle beaucoup des animaux, mais tous n'ont pas droit à la même longueur pour tel ou tel chapitre. Et le corbeau, c'est une des vedettes des bestiaires, et il est toujours pris en bonne part. C'est l'animal noir par excellence. Il est cruel, il est bavard, il est charognard, il est cupide, il est sale, il est vorace, il passe son temps à manger, il n'est jamais rassasié. Il s'attaque aux cadavres, il mange n'importe quoi. Sur les cadavres, comme nous l'avons dit, il raffole des yeux et de la cervelle. Bref, les auteurs de bestiaires au XIIe et XIIIe siècle chargent beaucoup ce pauvre oiseau, racontent même que le corbeau mâle ou femelle est un mauvais parent. Quand les petits naissent, les parents ne les nourrissent pas tant que les plumes restent grises. Il faut qu'elles deviennent noires pour qu'ils reconnaissent les jeunes corbeaux qui viennent de naître comme leurs propres enfants et acceptent donc de les nourrir et de les élever. Et certains auteurs racontent même que les jeunes se vengent plus tard, quand les parents sont devenus vieux. Les jeunes qui se sont souvenus de cette petite enfance difficile ne nourrissent pas leurs vieux parents qui ne peuvent plus voler pour chercher de la nourriture.
Cela fait une vie de famille un peu troublée.
Oui, une vie de famille très troublée, qui fait contraste avec ce que ces mêmes bestiaires nous disent de la corneille, qui est plutôt un oiseau pris en bonne part. Elle est bonne épouse, elle est fidèle, les couples de corneilles restent fidèles. Elle est bonne mère, elle nourrit ses petits. Elle a des amis, c'est une grande amie de la cigogne. Elle est vertueuse, Au fond, son seul comportement négatif, c'est d'avoir de la haine pour la chouette. Et certains auteurs nous racontent comment, dans la journée, pendant que la chouette dort, la corneille va s'emparer de ses œufs. Alors la chouette se venge la nuit, quand la corneille dort elle-même, la chouette va détruire les œufs de la corneille. Donc il y a des guerres au sein du monde des oiseaux.
On trouve beaucoup de corbeaux autour des gibets, y compris rétrospectivement autour de celui du Christ.
Oui, quand on met en scène le Christ en croix, dans un paysage qui est souvent un paysage triste, désolé, parfois un peu anachroniquement un paysage d'hiver, avec même de la neige, le corbeau est presque un attribut obligé de la crucifixion pour souligner l'idée de mort, l'idée de désolation. C'est un topos qui a la vie longue chez les imagiers et chez les peintres que de mettre en scène un corbeau avec le froid, l'hiver, le vide. Ça peut être un paysage de neige avec le contraste entre le plumage noir du corbeau et le blanc de la neige. Ça peut être un paysage désertique au contraire. Sur ce lien entre le corbeau et le vide au fond, et de ce contraste naît quelque chose de très inquiétant.
Être abandonné au corbeau, aux corneilles, au fond, cela signifie qu'on est exclu de la société humaine, vers les déserts dont il est question. D'ailleurs, le bio, je note que le bio en Angleterre, sur lequel on tranche le cou des criminels et parfois d'un roi, s'appelle Ravenstone, c'est-à-dire la pierre au corbeau.
En latin médiéval et dans certaines langues vulgaires, l'expression « aller au corbeau » veut dire directement « aller à la mort »,« aller à l'exécution »,« rejoindre les cadavres ».
Un personnage que vous aimez bien, c'est-à-dire Robert de Fournival, qui a fait plusieurs bestiaires, alchimiste, médecin, explique que non seulement c'est une incarnation du démon, mais que c'est aussi une image de l'amour, c'est-à-dire, et c'est évidemment en mauvaise part qu'il en parle, tout aussi perfide et cruel. Il écrit, on est en 1250 environ, il écrit « Le corbeau possède une autre nature qui, plus que tout autre, ressemble à la nature de l'amour. Cette nature veut que lorsqu'il trouve un homme mort, la première chose qu'il mange de lui, ce sont les yeux, on y revient toujours, par là, mais cette fois-ci l'interprétation est différente, il en extrait la cervelle, et plus il y en a, plus il s'en prend. Ainsi en va-t-il de l'amour. Dès la première rencontre, l'homme est pris par les yeux, et jamais l'amour ne se serait emparé de lui si l'homme n'avait pas regardé la dame.
Dans son bestiaire d'amour, un texte magnifique dans un ancien français superbe, il compare toujours le comportement animal au comportement de la dame, capricieuse, égoïste, et qui n'accorde jamais ce qui est demandé. C'est un personnage important, Fournival, parce que c'est un clerc au service de l'évêque de Beauvais, et qui possédait une assez belle bibliothèque au milieu du XIIIe siècle. Par testament, il l'a légué à un autre personnage qui est Robert de Sorbonne, le fondateur du collège qui deviendra notre Sorbonne. Et le noyau des livres de l'actuelle bibliothèque de la Sorbonne, le noyau le plus ancien, ce sont les livres de Richard de Fournival.
Si nous avançons dans le temps, on en arrive à une date très importante quant à l'histoire du corbeau déprécié, détesté, haï par les hommes. C'est le moment du grand incendie de Londres en 1666.
Oui, c'est une date importante dans l'histoire des corbeaux, mais aussi dans l'histoire de l'Angleterre. Londres était une ville où les maisons en bois étaient majoritaires et cet incendie a été immense et frappé tous les contemporains, pas seulement en Angleterre, mais aussi sur le continent, d'autant qu'il faisait suite à une épidémie épouvantable de peste qui, les deux ou trois années précédentes, avait frappé à plusieurs reprises. Donc, la population londonienne est morte en très très grande proportion, des dizaines de milliers de morts.
Festin pour les rats et pour les corbeaux.
Et pour les corbeaux, on ne pouvait pas les enterrer, il y avait trop de morts, et les corbeaux sont intervenus avant les fossoyeurs, en quelque sorte, et ça a été un spectacle qui a effrayé la population qui avait survécu, et de là est née une haine envers les corbeaux que l'on s'est mis à détruire à tour de bras.
Alors que les corbeaux, probablement, étaient des mangeurs bien plus opportun que les rats, puisqu'ils protégeaient davantage contre les maladies contagieuses.
Voilà, les rats sont souvent les agents propagateurs des épidémies, et donc il vaut mieux que les corbeaux interviennent avant les rats, parce que, justement, ils limitent les effets de ces épidémies qui peuvent naître de la putréfaction des cadavres. Et alors le roi d'Angleterre, Charles II, a pris une décision. Il a officiellement institué à la Tour de Londres la présence de corbeaux comme protecteurs de la ville. C'était pas une nouveauté. Les corbeaux de la Tour de Londres sont plus anciens que cette année 1666, mais ça n'était pas une institution, c'était un usage, une habitude. À partir de Charles II et de ces années-là, 66-67, il est décidé qu'il y aura soit 6, soit 7 corbeaux à la Tour de Londres, avec un maître des corbeaux qui existent encore, pour s'occuper d'eux. Ils seront nourris, gavés même, pourrait-on dire. Aujourd'hui encore, c'est une attraction touristique intéressante d'aller voir les 7 corbeaux de la Tour de Londres, qui sont des grands corbeaux, c'est-à-dire des oiseaux qui ont la taille d'un gros coq, en quelque sorte, et qui ont un nom propre. Il y a, comme dans la mythologie nordique, Ugin et Munin, il doit y avoir Cédric, il doit y avoir Hardy, Phil, et ces corbeaux passent pour être protecteurs. Tant qu'ils vivront, tant qu'ils ne se sauveront pas, Londres et ses habitants seront protégés.
Alors je voudrais maintenant, Michel Pastoureau, que nous en venions à la question de la place du corbeau, puisque c'est de lui, ce matin, que nous parlons, dans la longue durée, la place du corbeau dans la peinture, dans la littérature. Il y a d'abord une surprise, qui est le corbeau de La Fontaine, avec son renard et son fromage. C'est un corbeau qui est naïf.
Qui est naïf, qui a trouvé, lui qui est si malin, il a trouvé plus malin que lui, le goupil, le renard. Cette fable, en fait, vient de très loin, c'est la plus célèbre de toutes les fables, c'est la fable par excellence. Elle est déjà présente chez Ésope, ce fabuliste grec, elle est présente chez les fabulistes latins, notamment Phèdre, qui vit sous le règne d'Auguste. Et c'est la traduction d'un recueil de fables de Phèdre, au milieu du XVIIe siècle, qui a donné l'idée à La Fontaine de reprendre un certain nombre de fables, et Le Corbeau et le Renard fait partie de la première promotion, pourrait-on dire, du premier livre des fables de La Fontaine, 1668. Et dans cette fable, le corbeau, curieusement, n'a pas le beau rôle. L'animal intelligent, ce n'est pas lui.
Donc c'est bizarre, parce que l'oiseau, qui était l'oiseau noir du destin, devient manipulable.
Voilà, il a trouvé plus malin que lui, c'est le renard, il est perché sur un arbre, il a volé un fromage, le corbeau est un voleur, il se prépare à le déguster et il est flagorné par un animal qui se trouve au sol, le renard, qui lui dit qu'il est très beau, est-ce que vous chantez aussi bien que vous êtes beau? Et le corbeau, naturellement, ouvre le bec pour chanter et lâche le fromage, le renard s'empare du fromage, c'est la fable qu'on apprend dans toutes les écoles maternelles ou primaires d'Europe occidentale, au point d'ailleurs que Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, un siècle plus tard, s'est scandalisé qu'on apprenne aux jeunes enfants les fables de La Fontaine, qui selon lui sont incompréhensibles pour un jeune enfant. C'est une fable intéressante parce qu'elle donne, et ce qui est vraiment très rare, au corbeau le mauvais rôle en termes d'intelligence, et puis elle fait intervenir trois couleurs qui me sont chères en tant qu'historien des couleurs, le noir du corbeau, le blanc du fromage, et le rouge, le roux du renard. C'est une triade qu'on retrouve dans les contes et les fables assez souvent, par exemple dans Le Petit Chaperon Rouge. Une petite fille habillée de rouge porte un petit pot de beurre blanc à une grand-mère ou à un loup noir. On a la même circulation des couleurs. Ou dans Blanche-Neige, une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme empoisonnée rouge d'une méchante femme déguisée en sorcière habillée de noir.
De ce point de vue-là, La Fontaine tranche avec les autres auteurs qui, pendant longtemps, ou les peintres, nous parlions de Van Gogh, qui pendant longtemps continue de voir le corbeau comme un signe de malheur. Le fameux poème d'Edgar Poe, poème qui a été traduit par Baudelaire.
Ici, c'est l'adverbe anglais « nevermore » qui revient comme motif funèbre et récurrent tout au long du poème. Je crois qu'il y a 18 fois l'adverbe « nevermore ». C'est un poème, je crois qu'il est daté de 1845, qui a beaucoup fait pour la gloire d'Edgar Poe. Il met en scène un personnage qui est en état de tristesse, il a perdu sa bien-aimée, nous sommes au mois de décembre, la nuit est froide et glacée, et dans sa chambre entre un corbeau qui se perche d'abord sur le haut de la porte, puis sur quelques meubles, qui le regarde et finit par se créer une intimité entre le poète et le corbeau. Le poète interroge l'oiseau, lui demande différentes choses, notamment vers la fin du poème, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Et à chaque fois, le corbeau ne répond que par un seul mot, nevermore, jamais plus, jamais plus. Et c'est tellement bien tourné, la musique des vers va tellement bien avec ce qui est dit, que l'atmosphère devient de plus en plus inquiétante. Le poète finit par sombrer dans la dépression la plus totale, presque la folie, et le lecteur est comme envoûté par le rythme du poème. C'est un très très grande œuvre littéraire, traduite d'abord par Baudelaire en 1853, puis par Mallarmé, on peut lire les deux versions, qui sont assez différentes d'ailleurs, et qui a donné lieu à une iconographie très abondante.
Par exemple ?
Beaucoup de gravures dans la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e siècle. Le corbeau, d'ailleurs, de point de vue général, est un oiseau qui se prête très bien à la gravure, puisqu'il est tout noir. Son plumage fait contraste avec les zones blanches dans les estampes ou dans d'autres formes d'images gravées. Le contraste noir et blanc est toujours associé à cet animal.
Corbeau comme un signe de malheur, de mort. En attendant qu'ils deviennent assez joueurs dans la littérature populaire. Contraste.
C'est une autre dimension du corbeau dont nous n'avons pas parlé. Le corbeau joueur, le corbeau pratiquant l'humour, le corbeau se faisant plaisir. Les naturalistes ont observé que, en vol, il est un oiseau qui aime à changer sa direction, à se retourner, à voler sur le dos sans qu'il n'y ait aucune raison. On sent qu'il y a un plaisir du vol qu'on ne retrouve pas chez tous les oiseaux.
L'humour du corbeau, c'est assez rare chez les animaux, l'humour, non ? Autant qu'on puisse l'apercevoir, évidemment. L'humour des fourmis, je ne le discerne pas vraiment.
On s'est aperçu que les corbeaux se plaisent à cachés de la nourriture au su et vu des autres oiseaux. Ils font croire qu'il y a à tel ou tel endroit de la nourriture qu'ils ont placée ici ou là. Puis ils vont se cacher eux-mêmes et observent le comportement des oiseaux qui naturellement s'approchent de l'endroit où il y a supposément de la nourriture. Et en fait, il n'y a rien. Et on a l'impression que les corbeaux se moquent des autres oiseaux. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. J'ai vu une émission de la BBC qui filmait tout cela et c'est assez convaincant. Le corbeau, donc, est un animal qui pratiquerait l'humour. D'une manière générale, alors, il faut souligner que, de tout temps, tous les oiseaux ont eu peur des corbeaux ou s'en sont méfiés. Même les rapaces n'aiment pas beaucoup les corbeaux et en ont plutôt peur.
Je ne vous ai pas donné La Fontaine, mais je vais vous donner Rimbaud. C'est Robert Etcheverry qui lit ici son poème en 1970, un poème qui remonte au tout début des années 1870.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand, dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux. Armées étranges, aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dorment les morts d'avant-hier, tournoyez, n'est-ce pas, l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais, saint du ciel, en haut du chêne, mât perdu dans le soir charmé, laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir.
La défaite sans avenir, Michel Pastoureau.
Oui, est-ce que c'est la défaite de la France de 1871 devant les Prussiens, ou s'agit-il d'une défaite plus large, plus générale? Le poème de Rimbaud est extrêmement fort et fait écho à celui qui a pour titre Le Dormeur du Val. On est là avec une scène de mort, et naturellement, le corbeau n'est pas très loin. Ce sont des trous rouges avec l'oiseau noir sur le champ vert ou sur le champ de neige. Donc toujours ces couleurs qui sont présentes quand l'animal est mis en scène.
Il faut, me semble-t-il, avant que nous nous quittions, Michel Pastoureau, que nous évoquions l'emploi métaphorique de l'expression du corbeau, compris comme un délateur, un calomniateur, celui qui, dans l'ombre, envoie des lettres en particulier pour s'en prendre à de malheureuses victimes. Il y a le fameux film de Clouzot qui s'appelle Le Corbeau, qui remonte à 1943.
Oui, il est tourné pendant la guerre, avec, si je me souviens bien, une maison de production allemande qui a fourni les fonds, ce qui a été reproché à la libération à Clouzot. Et en outre, il met en scène une petite ville de province où les habitants ont un comportement qui n'est pas des plus nobles, plus cet auteur de lettres anonymes qui dénonce tout le monde, notamment un médecin, le docteur Germain, accusé de pratique abortive, mais il n'est pas le seul qui reçoit des lettres anonymes. Bref, s'adresse le tableau d'une France occupée, très très noire, pas seulement à cause de la guerre, mais à cause, on pourrait penser, du comportement des hommes et des femmes dans une petite ville de province.
Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de lettres de délation, évidemment, pendant cette période, à côté de gestes de générosité, en particulier en direction des Français et des Françaises juifs.
Oui, tout à fait. À la Libération, donc, cela a été reproché à Clouzot, qui, le film a été interdit de diffusion en salle, lui-même a été interdit d'exercer son métier. Je crois que pendant 3 ans, il a dû lutter pour retrouver ses droits, ce qui lui a permis de faire, à partir de 1947, d'autres grands films. C'est lui l'auteur du Salaire de la peur, des Diaboliques,
Quai des Orfèvres.
Donc, c'est un grand cinéaste. C'est un grand film, qu'il faut voir aujourd'hui. Et donc qui s'appuie sur, pour son titre, sur ce sens figuré du mot corbeau, le délateur, le dénonciateur. Et on peut se demander d'où cela vient-il. Eh bien, ça vient de très très loin, probablement des pratiques de vénerie au Moyen-Âge et de la chasse au renard. On chasse le renard, non pas pour manger sa chair, puisque c'est un animal qui ne se mange pas, exactement comme le corbeau d'ailleurs, mais pour le plaisir. Et quand les veneurs qui sont à cheval ont perdu la trace du renard, qui est un animal qui va non pas droit mais en zigzag, donc on perd facilement sa trace, ils lèvent les yeux au ciel et voient dans les airs le corbeau qui, lui, en l'air, suit le renard à la piste et
il dénonce
son itinéraire. Et je pense que dans la langue française du XIVe siècle, ce sens figuré du mot corbeau est déjà attesté. Je pense que c'est l'origine de ce sens figuré.
On a trouvé d'ailleurs ce qui témoigne de la vitalité de ce sens figuré dans plusieurs affaires récentes. Mais j'ai choisi de vous faire entendre une archive qui va peut-être vous surprendre. C'est plutôt du côté de la gaieté, de la gaieté funèbre. Vous allez voir, c'est un extrait d'Interactualité le 7 novembre 1984. Un corbeau envoie des lettres anonymes à un certain nombre de personnes âgées. Écoutez bien.
Périgueux a son corbeau. Il s'amuse à envoyer des lettres aux personnes âgées, des lettres à en tête de la sécurité sociale, les invitant à se présenter au crématoire municipal de la ville pour y être incinérés. Des missives signées par le président d'une bizarre commission s'intitulant « Résorption du déficit de la sécurité sociale ». Je vous laisse imaginer quelle peut être la réaction des intéressés, telle cette femme de 55 ans au micro de Radio France Périgord.
J'ai d'abord très mal pris. Moi, ça m'a serré la gorge. J'ai dit quand même, c'est honteux, puisqu'on sait que j'ai fait don de mon corps à la médecine. Me faire des âneries, comme de cette histoire, ça, je comprends pas ça, moi. Mais vous avez lu ce qu'il y avait dessus? C'est marqué, votre vie n'offre plus aucun avantage pour la société, mais au contraire apporte une charge supplémentaire à la caisse d'assurance maladie pour votre ville et des désagréments pour votre entourage. Ben, c'est pas...
Et on vous demandait de...
De me rendre au feu numéro 2, clapet 34, pour procéder à mon incinération. Prière de vous munir de votre carte d'immatriculation et d'affiliation, de votre carte d'identité nationale, d'une corbeille de bois de sapin sec et d'un sac pour les cendres.
Il vous demandait donc de tout prévoir, de prévoir votre mort.
Exactement. Vous croyez que c'est réjouissant quand vous recevez des lettres pareilles? Mais on ne veut pas mourir, hein? On a des petits-enfants, on veut vivre encore, hein, on va en profiter.
Puis-je dire, Michel Pastoureau, qu'en écoutant cette archive, je vous ai vu rire aux larmes, à proprement parler.
Oui, c'est dramatique comme histoire, c'est épouvantable, mais on ne peut pas s'empêcher de rire, parce que, bien sûr, c'est tellement
l'humour noir.
Excessif, c'est de l'humour très très noir, à l'image du plumage du corbeau.
Alors, nous allons terminer cette conversation, comme je l'ai annoncé, comme je l'ai promis, sur le corbeau en majesté, c'est-à-dire retrouvant l'admiration des chercheurs et peut-être d'une partie de la population comme étant un animal extrêmement intelligent.
Oui, c'est en tout cas ce que semblent montrer les enquêtes les plus récentes sur l'intelligence animale. On savait déjà depuis longtemps que le corbeau était un animal intelligent, probablement le plus intelligent des oiseaux. Aujourd'hui, cela est confirmé, mais on va plus loin et on pense qu'il s'agit probablement du plus intelligent de tous les animaux. Des auteurs anciens comme Pline nous racontent déjà comment, pour attraper de la nourriture qui est placée au fond d'un récipient, les corbeaux peuvent utiliser différentes stratégies. Par exemple, s'il n'y a pas d'eau dans ce récipient, mais simplement de la nourriture au fond, ils vont chercher petit à petit de l'eau pour remplir le vase, et ça fait monter l'aliment qui se trouve à la surface, et quand c'est à la bonne hauteur, avec le bec, ils peuvent l'attraper.
Dans d'autres cas, ils ont besoin d'eau, et alors c'est une autre stratégie.
Voilà, quand le récipient lui-même contient de l'eau, mais qu'elle est quand même, le niveau est trop bas pour leur bec, ils remplissent le récipient avec des cailloux, un par un, ce qui fait monter le niveau de l'eau, et le résultat est le même, le niveau finit par atteindre une hauteur qui leur permet de saisir la nourriture. Donc ça, on l'avait déjà observé dans les sociétés anciennes, mais aujourd'hui, on fait faire aux corbeaux des exercices beaucoup plus compliqués. Les corbeaux, par exemple, sont capables de fabriquer des outils. On cache derrière une porte fermée à clé de la nourriture qu'ils sentent. Ils constatent qu'ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. Ils savent qu'il y a une serrure et que les humains introduisent quelque chose dans cette serrure. Ils cherchent à faire de même avec un morceau de fil de fer. Ils l'introduisent en le tenant dans leur bec dans la serrure. Ça ne marche pas. En général, ils ne le font pas tout seuls, mais à plusieurs. Et ils observent et ils déduisent. Et donc, ils vont tordre le fil de fer, refaire un essai. Ça ne marche pas. Ils recommencent et ils finissent par crocheter la serrure et aller chercher la nourriture qui est derrière.
On peut trouver une explication dans la dimension de leur cerveau ?
On a une hypothèse, oui, à savoir que ce qui compte pour cette forme d'intelligence chez les animaux, ce n'est pas tant la taille du cerveau que la façon dont celui-ci occupe la boîte crânienne et la remplit parfaitement, et surtout le rapport de proportion entre la taille de ce cerveau et la masse corporelle de l'ensemble de l'animal. Chez la poule, cette proportion est très très faible entre le cerveau et le corps entier. On est à 0,01%.
Alors bon, pauvre
poule. Pour l'être humain, on est autour de 1,5%. Mais la corneille, c'est un peu plus de 2%, et le grand corbeau, c'est 2,5%. C'est le record du monde animal, record du monde, pourrait-on dire.
Plus que les hommes même, vous dites ?
Plus que les hommes, oui. Peut-être qu'un jour, on découvrira que le corbeau est plus intelligent que nous.
C'est assez vexant, je suis préoccupé d'annoncer cette nouvelle à nos auditeurs.
Voilà, il faut attendre un peu. On a observé également dans certaines villes d'Europe et du Japon que les corbeaux qui ont parfois du mal à casser des noix qui sont extrêmement dures dans les faubourgs, voire au cœur de la ville, ont l'idée de se placer à un carrefour. Quand le feu est rouge et les voitures arrêtées, ils placent les noix devant les roues des voitures. Puis quand le feu est vert, naturellement, les voitures écrasent les noix. Et quand le feu est de nouveau rouge, les corbeaux viennent chercher les noix qui se sont ouvertes et écrasées pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur.
On comprend que le corbeau se laisse aller parfois, selon vous, devant un miroir à quelque narcissisme.
Le corbeau réussit en effet ce que nous appelons le test du miroir. C'est quelque chose qui se pratique pour étudié le comportement cognitif des animaux, on les fait se regarder dans un miroir et très peu d'espèces animales comprennent que l'image qui est dans le miroir, c'est la leur propre. Pour ce faire, on place sur une partie de leur visage, en général sur le front, une marque et quand l'animal avec un geste quelconque, cherche à enlever cette marque, c'est la preuve qu'il a compris que c'était lui qui était dans le miroir. Il se demande, mais qu'est-ce que ça fait là? Et il y a très très peu d'animaux qui comprennent que c'est leur image. Il y a le cochon, il y a l'ours, il y a donc le corbeau, les grands singes. Mais ni le chien, ni le chat, ni le cheval, ni les bovins ne comprennent qu'ils voient leur image dans le miroir.
Est-ce que je peux conclure, Michel Pastoureau, que vous aimez beaucoup le corbeau et c'est une sorte de revanche par rapport à tous les sombres regards qu'on a portés sur lui au cours des siècles?
Je l'aime beaucoup, surtout en historien, parce que, en tant qu'historien des animaux, je m'intéresse beaucoup à ceux qui ont été admirés puis réprouvés, parce qu'ils laissent beaucoup de traces dans les documents.
Et cela enrichit évidemment vos ouvrages qui sont nombreux. Par exemple, ce Bestiaire du Moyen-Âge, un très beau livre qui est paru au Seuil en 2011. Et un autre qui s'appelle Les animaux célèbres, chez Arléa, en poche désormais, en 2008. La première édition était en 2001. Vous comptez vous intéresser à d'autres animaux? Si ma question n'est pas indiscrète, vous pouvez y répondre.
Pas du tout, non. J'aimerais d'abord mettre en forme un livre sur l'histoire culturelle du corbeau dans les sociétés européennes, autour de tout ce que nous avons raconté aujourd'hui.
Vous avez fait une bande-annonce, en somme.
Voilà, c'est ça. Les dossiers sont prêts, mais il reste à mettre en forme le livre, qui devrait être un peu semblable à celui que j'ai consacré à l'ours. L'ours, histoire d'un roi déchu. Ici, ce serait le corbeau, histoire d'un oiseau quelque peu inquiétant.
Le cochon apparaît aussi dans votre œuvre tout récemment.
Voilà, c'est une autre vedette de mon bestiaire.
Qui a tué un roi.
Alors c'est un livre récent, oui, sur un fait qui est peu connu des historiens et pas du tout du grand public. On est au XIIe siècle, le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, qui a déjà été sacré et couronné roi du vivant de son père, comme c'était l'usage à l'époque, meurt à l'âge de 15 ans d'une chute de cheval provoquée par un cochon de ferme qui s'est mis dans les jambes du cheval. Le jeune prince est mort et c'est une mort infâme. S'il était mort à la chasse, tué par un sanglier, porc sauvage,
c'était plus chic.
C'était glorieux même, c'est une mort de prince. Mais à cause d'un porcus diabolicus, comme disent les chroniqueurs, un pourceau, un vulgaire pourceau, c'est une mort infâme, misérable, honteuse, et c'est une souillure pour la dynastie capétienne, le roi, le royaume. Mais mon livre étudie tout ce que l'on a fait pour essayer d'effacer cette souillure, dont aux églises, croisade du roi Louis VII, qui est devenu le roi à la place de son frère aîné, règne très malheureux que le règne de Louis VII, croisade malheureuse. Finalement, on fait appel à la Vierge. On en fait la protectrice du royaume de France au milieu du XIIe siècle. Et surtout, le roi, pour créer les premières armoiries, lui emprunte deux de ses éléments, la fleur de lys et la couleur bleue, deux symboles de pureté qui ont effacé cette souillure.
Prodigieuse influence d'un cochon sur l'histoire de France. Vous parlez aussi beaucoup des couleurs, je le disais. Je ne citerai qu'un de ses ouvrages, celui consacré au noir, puisque c'est la couleur du corbeau, Histoire d'une couleur, paru au Seuil en 2013. Hommage aussi au petit livre, mais précieux, de Boria Sachs, qui s'appelle Corbeau, qui est paru paru chez Delachaux et Niesley en 2005. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, elle est abondante, sur notre site, avec les références des documents que nous avons utilisés, les documents sonores, et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger, certains disent podcaster, cette émission. Samedi prochain, nous serons en pleine actualité, peut-être plus encore qu'aujourd'hui, puisque nous parlerons des migrants. Les migrants en prenant un nombre immense, et je voudrais que nous consacrions cette conversation avec Philippe Chassaigne au cas de l'Irlande, au mi-temps du 19e siècle. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, Nathalie Lempereur, avec la réalisation de Patrick Molinier, avec Jean-Guilain Meige à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.